A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bonjour, c'est Alix, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn. Exceptionnellement, Sors le Popcorn reprend son format initial, son format habituel, pour un épisode consacré à une mini-série Netflix sortie il y a quelques jours sur la plateforme. Il s'agit d'Hollywood. Du coup, cette semaine, vous n'aurez pas quatre petites recos, mais bien un long épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Apple Podcast ou par DM. Si vous préférez un petit format snacking, si vous préférez ces longs épisodes, si vous aimez qu'on alterne les deux. Donc aujourd'hui, je vais appeler Mimi pour qu'on puisse débattre de cette série d'abord sans, puis avec spoilers. Donc même si tu n'as pas vu Hollywood, tu peux rester au moins pour le début, voir si ça te fait envie, cher auditeur ou chère auditrice. Et si oui, alors fonce la regarder et reviens pour écouter la deuxième partie.
C'est parti mon kiki. Salut Mimi et bienvenue dans un épisode un peu plus classique de Sors le Popcorn.
Salut Alix.
Aujourd'hui, on va te parler, cher Popcornos, d'Hollywood, la mini-série Netflix qui nous replonge dans les années 40 à Los Angeles, à l'époque de l'âge d'or hollywoodien. Donc voilà, c'est l'époque de l'hégémonie des studios, c'est le grand boom d'Hollywood après la guerre, c'est l'invention des genres dans le cinéma, c'est le début de la starification. Bref, c'est une période assez clé pour le cinéma. Et c'est Ryan Murphy qui est à l'origine de la série. Donc tu le connais peut-être puisqu'on lui doit American Horror Story, Glee aussi, mais aussi The Politician qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix aussi. Et il nous propose de vivre une uchronie, c'est-à-dire d'imaginer le monde du cinéma dans les années 40 s'il avait pu être inclusif en fait. Pour ça, on suit les histoires de différents personnages. Jack Castello, par exemple, qui est un jeune acteur fringant qui veut devenir une star, car tout le monde lui a toujours dit qu'il était un peu bêta, mais donc il veut prendre sa revanche. Mais le problème, c'est qu'il a pas de talent d'acteur. Voilà.
Pas trop. Ça va qu'il est joli. Globalement, les gens lui disaient bon, t'as de la chance d'être un peu BG, quoi. Sous-entendu, c'est pas le reste qui va te faire avancer dans la vie.
C'est ça, dans la série, c'est vraiment, toi t'es BG, vas-y, on va faire de toi une star, on verra si tu sais jouer après, quoi. Et du coup, à côté de lui, il y a le couple Raymond Ainslie et Camille Washington qui évoluent. Donc le premier est réalisateur et l'autre est actrice. Le truc c'est que Camille est noire et Raymond est moitié philippin, sauf que ça ne se voit pas, comme ils disent dans la série, en fait ils passent pour blanc. On retrouve aussi Archie qui est un jeune scénariste noir et gay qui veut écrire des films mainstream pour les studios. Mais en attendant d'y arriver, il se prostitue dans la même agence entre guillemets que Jack Castello. En fait ils sont pompistes plus quoi, puisqu'ils travaillent chez, comment il s'appelle déjà, Ernie, c'est ça?
Ouais. Ernie, ouais, qui voulait aussi, Ernie, ouais. Qui est donc joué par Dylan McDermott, qui fait sa plus belle imitation de Clive Owen depuis longtemps. Donc on est très contents de tout ce qui se passe. Et donc lui, c'est un quinca qui est aussi arrivé à Hollywood à son époque pour en rêvant d'être une star. Et bon, bah ça n'a pas marché. Et du coup, il a monté une station de service où, avec un mot de passe, tu peux demander plus que juste la vidange et le plein. Puisque si tu dis que tu veux aller à Dreamland, c'est un code pour dire que tu veux des relations sexuelles tarifées. Et du coup, tu peux soit le faire dans un petit cabanon derrière la station essence, soit mettre un peu le prix et aller à l'hôtel. Et ça concerne... Donc, il n'y a que des hommes qui travaillent dans cette station-service, mais leur clientèle est mixte, puisqu'il y a des femmes qui y viennent et aussi des hommes donc bisexuels ou homosexuels qui, évidemment, à l'époque, ne peuvent pas vivre leur orientation sexuelle au grand jour.
Mmh, exactement. Et du coup, donc Archie et Jack travaillent là-bas. Et le petit ami d'Archie, c'est Roy Fitzgerald, ou Rock Hudson, comme le renomme son agent, le terrible Henry Wilson. Et d'ailleurs, tous les deux sont des vrais personnages. En fait, ils ont vraiment existé. Bon, après, leur histoire est toute différente dans la réalité, puisque comme la série est une uchronie, ça se passe pas vraiment comme ça s'est passé en vrai. Et du coup, tout ce petit monde va se réunir autour d'un film qui s'appelle Peg et qui va vraiment bousculer les standards d'Hollywood de l'époque. Ils sont aidés de Dick Samuels aussi et Davis Samberg, qui sont les gérants du studio Ace Pictures. car tous deux, en fait, n'en peuvent plus du manque de diversité dans le cinéma et ils ont envie de faire bouger les choses. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnages. mais d'ailleurs, il y a des super acteurs pour les interpréter, comme tu disais. Je trouve que c'est très très bien joué. C'est un des grands atouts de cette série. Il y a beaucoup d'habitués des travaux de Ryan Murphy avec Darren Criss, qui était, moi que je connais de Glee, quoi. Il y a Patti LuPone aussi, Jim Parsons. Et perso, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la performance de Laura Harrier, qui joue Camille Washington. Enfin, je l'ai trouvée très juste et très, je l'ai trouvée nickel.
Ouais, elle est très naturelle et elle a cette genre de... Enfin, je trouve qu'elle joue très bien. Donc, c'est une jeune femme afro-américaine qui, à un moment dans la série, rencontre une actrice plus âgée qui est aussi afro-américaine et qui, du coup, elle n'a pas réussi à percer en raison de sa couleur de peau. Et je trouve qu'on voit très bien la dichotomie entre... Enfin, elle continue... Comment dire ça ? Camille, elle est assez jeune pour continuer à y croire et à croire qu'elle peut changer les choses. Et en même temps, elle n'a pas envie de se laisser faire face au racisme. Il y a un moment où elle a un appel... anonyme d'un mec qui la menace et tout, et elle est vraiment, enfin elle a moins peur que juste elle est vénère, quoi. Elle a envie d'aller casser des gueules. Elle lui dit ouais, tu viens chez moi, tu me le dis, on en parle. Donc
viens me le dire en face.
Ouais, alors que franchement, à l'époque où le Ku Klux Klan met des croix enflammées devant la maison des gens, je suis pas sûre que j'aurais tenté le ouais tiens mon adresse, vas-y viens. J'aurais peut-être fait non, au revoir, merci monsieur.
De ouf, j'avoue. Et du coup, t'attendais quoi de cette série, Mimi?
Donc la série, je l'ai bingée en deux jours. Elle est sortie un vendredi d'un grand week-end, donc clairement lundi, j'avais tout regardé. J'en attendais rien de spécial, dans le sens où j'avais même pas vu de bande-annonce, j'avais rien, je savais pas de quoi ça parlait, je savais pas à quelle époque ça se passait. Mais nous sommes actuellement confinés, ce qui explique la qualité sonore un peu différente de cet épisode. Et je galère un petit peu à trouver des séries à regarder, des nouvelles séries à regarder pendant le confinement. Du coup, j'étais juste contente. Je me suis dit, ok, 8 épisodes, c'est pas Ryan Murphy. J'aime pas tout ce qu'il fait, notamment American Horror Story, je regarde pas parce que je suis une flippette. J'avais bien aimé Glee, mais on va pas se mentir, au bout de quelques saisons, ça tournait un peu en rond, mais je suis toujours au moins curieuse de ce qu'il produit. Et je sais pas, je me suis dit, bon, on va lancer le pilote, on va voir. Donc j'ai tout découvert sur le tas, quoi. Je savais pas que ça allait parler de prostitution, je savais pas que ça allait parler du Hollywood des années 40, je savais pas qu'il y avait un discours inclusif, j'étais juste en mode... Ah, je découvre, et j'ai passé globalement un très bon moment, sinon j'aurais pas tout bingé en 3 jours. Donc j'en attendais rien, mais j'ai quand même été heureusement surprise.
Ouais, alors que moi c'est tout le contraire.
Oh.
Moi j'en attendais vraiment tellement de cette série, parce que du coup quand j'ai vu la bande-annonce j'étais là... Oh my god, c'est une des périodes du cinéma que je préfère, j'aime trop ça. J'ai rédigé l'article pour Mademoiselle pour annoncer que ça arrivait, j'étais super enthousiaste, enfin bref, je l'attendais mais au pied levé, mais même pas en fait, parce que je voulais trop l'aimer en fait cette série. Et du coup, non, j'attendais pas de la détester, mais j'attendais en fait, je sais pas, Netflix m'avait vendu un peu une uchronie un peu piquante et provocante, tu vois, parler de la prostitution masculine, etc. Et du coup, je voulais tellement l'aimer que j'en suis d'autant plus déçue, parce que j'attendais que ça renverse les codes. Mais à la place, je trouve une utopie ultra gentille et lisse, avec des personnages, je trouve, qui manquent parfois vraiment de profondeur, à part certains. Bien sûr, je détaillerai mes préférés plus tard. mais pour moi, j'y croyais pas, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Comme tout est franchi de manière assez facile, tous les obstacles sont franchis de manière assez facile, j'ai pas réussi. En fait, je me suis fait suer, vraiment, je me suis ennuyée. Et t'as une tête, Mimi.
Mais j'ai trop de compassion pour... Enfin, je connais bien. Je veux dire, j'ai couvert Game of Thrones pour Mademoiselle, ok. Je connais le sentiment d'avoir vraiment très envie d'aimer un truc et d'être là, mais tout devrait être bien. Et que ça marche pas et qu'au final, le produit fini ne fonctionne pas sur toi. Et je sais que c'est toujours décevant de... Tu vois, t'as quand même tout regardé. Enfin, t'as fait le taf, quoi. Et je sais que t'as essayé très fort d'aimer cette série autant que tu voulais l'aimer. Et du coup, j'ai de la compassion pour toi que ça ait pas marché.
Mais ouais, parce que en fait, j'ai commencé donc à la regarder dès le vendredi. J'ai regardé 3 épisodes et j'étais là, en fait, c'est pas du tout ce que j'attendais, je vais pas continuer. Et puis le lundi, j'ai vu que tout le monde était super enthousiaste et tout, je me suis dit, il faut vraiment que je la continue. Et en fait, plus je la regardais, plus j'étais là, mais c'est too much. En fait, c'est trop. Mais en même temps, j'ai aussi compris que le too much, c'était en référence au too much qu'on vit aujourd'hui, parce que on est à 3 ans du mouvement MeToo, on est à quelques mois des Césars de la honte, qui sont des vrais bouleversements du cinéma. Et en fait, du coup, on a l'impression de nous pas vivre dans une utopie, mais dans une dystopie. Mais du coup, c'est ce too much là, je pense que ça fait référence à ça, au too much inverse qu'on vit en ce moment. Mais je sais pas, c'était trop facile. Par contre, j'ai adoré la photographie et la réalisation très années 40, du coup, pour le coup, et même l'acting très différent de ce qu'on peut voir dans les autres séries, avec leur tête d'ahurie, là, comme ça. On dirait qu'ils sont prêts à chanter à n'importe quel moment. On est dans une semi-comédie musicale, il y a beaucoup de musique. Enfin voilà, c'est hyper intéressant au niveau de la réalisation. Et je trouve que l'esthétique souligne hyper bien l'hypocrisie et la bienséance imposée par le code Hays à l'époque, qui est un code c'est un code de production auto-imposé par les studios pour s'auto-censurer, pour faire des films bienséants, en fait. Et à côté de ça, en fait, la série, derrière ce vernis de la série, elle parle de rêves et de personnes brisées, de prostitution, de violences sexuelles. Donc voilà, c'était ce que je trouvais intéressant dans cette série. Mais bon, en règle générale, j'ai quand même été un peu, je sais pas, ouais, c'est comme tu dis, ça a pas fonctionné sur moi. Mais j'ai l'impression d'être vraiment la seule.
Bah non, en fait, je pense que t'es peut-être la seule en France, parce qu'effectivement, les réactions françaises que j'ai vues, c'était plutôt positif, voire très très positif. Mais
ouais,
quand j'ai fini
des
la
critiques
série,
genre excellente et tout, j'étais.
Ouais. Mais ouais, quand j'ai fini la série, j'ai cherché des critiques et aussi des trucs. Alors, on en parlera plus tard, mais de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est quoi. Parce que moi, je connais très peu cette période d'Hollywood et du coup, ouais, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui a existé. Genre, bah, Roy Fitzgerald alias Rock Hudson, il a vraiment existé. Moi, j'étais là. J'avais pas du tout aucune culture. Du coup, je me suis renseignée et en fait, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'articles américains, de grands médias qui traitent du cinéma et de la société, qui étaient dans ton camp, dans le sens où, en fait, c'est trop gentil, c'est trop facile, c'est trop en surface. Il y a Esquire qui a fait un titre assassin. Donc, Esquire, c'est un grand magazine culturel américain. Et en fait, il y a une expression en anglais qui dit... comment dire ça ? C'est pat your shoulder, en gros, donc ça veut dire tapoter ton épaule, et en gros, c'est te congratuler, tu vois, genre, ah, laisse-moi te congratuler. Ouais. Et leur titre, du coup, c'est Hollywood dislocates his own shoulder, patting itself on the back, ou un truc comme ça, genre, la série s'auto-congratule tellement qu'elle se déboîte l'épaule, j'étais là. Et c'est le titre de leur review, tu vois, donc peut-être que ton cœur est américain.
Il y a des gens dont c'est le métier de trouver des titres comme ça.
Ouais.
Ouais, mon cœur est américain.
Et je trouve que c'est intéressant, ça va pas être le sujet de cet épisode parce que ce serait trop vaste, mais la différence de perception, en fait, que l'Amérique voit cette histoire américaine différemment de comment les Français la voient, je trouve que c'est intéressant et c'est peut-être une clé pour comprendre les perceptions très différentes qu'on peut avoir de cette série entre personnes qui, de base, devaient l'aimer plus qu'autre chose, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, bah écoute, je te propose qu'on passe à la partie spoiler pour pouvoir parler plus en profondeur de la série. Donc, si vous n'avez pas vu encore la série, je vous propose d'aller la binger, puisque vous avez deux avis différents. Donc, à vous de vous faire le vôtre aussi. Et puis ensuite, vous pouvez revenir écouter la suite de ce podcast dans lequel on va débattre de façon acharnée sur la suite de la série.
Moi, je suis prête à me battre. Pas du tout.
Donc voilà, vous avez entendu l'alerte des spoilers. À partir de maintenant, on parle avec des spoilers.
D'excuses.
On dit tout. Vous n'avez plus d'excuses. Bon, alors qu'est-ce que t'as pensé de cette réécriture justement de l'histoire, toi qui disais que tu la connaissais pas forcément et que du coup t'as passé beaucoup de temps, moi aussi d'ailleurs, avec Google à côté. Qu'est-ce que t'en as pensé alors de cette réécriture ?
Alors j'ai trouvé ça... En fait, j'ai trouvé ça intriguant, le fait que... En fait, il y a un truc qui m'a fait penser un peu à Orange is the New Black. Donc, Orange is the New Black, c'était une des premières productions Netflix. Ça se passe dans un pénitencier pour femmes. Et il y a énormément de personnages de femmes qui sont pas blanches, qui sont pas hétéros et tout. Mais l'héroïne, c'est une femme blanche un peu de la haute, enfin, en tout cas, classe moyenne supérieure, qui, certes, est bisexuelle, mais qui, en tout cas, est beaucoup plus privilégiée que les autres personnages qui finissent par être beaucoup plus intéressants qu'elle. Et en fait, j'ai ressenti un peu pareil avec le personnage de Jack Castello, qui est donc... alors, il a fait la guerre, mais mais très visiblement ça l'a pas perturbé plus que ça. Il a une meuf qu'il aime pas vraiment, qui est enceinte, mais alors là c'est résolu, mais par un tour de passe-passe non, incroyable.
C'est la vraiment... pire storyline de toute l'histoire de toutes les séries de la Terre. Vraiment,
je sais pas ce qu'il voulait en foutre de cette histoire, mais j'étais vraiment en mode, en fait, peut-être qu'il fallait qu'il ait une femme pour que ce soit historiquement correct. Genre, c'est pas logique qu'un mec de son âge ne soit pas déjà marié aux États-Unis, tu vois, c'est possible. Du coup, il faut qu'on lui mette une femme, mais on veut aussi qu'il ait d'autres bails, et en fait, le personnage de sa femme nous intéresse pas trop. Donc, vas-y, on va dire qu'elle lui divorce la gueule pour partir élever ses jumeaux avec son collègue de travail dans l'Arkansas ou je sais pas où, j'étais là. C'est très simple.
Il est triste 2 secondes et demie, et après, j'en ai là. Je vais demander en mariage quelqu'un d'autre.
Ouais, alors bon, la demande en mariage à la fin, vraiment cette romance avec la blonde, la fille des producteurs des studios, vraiment, n'a aucun intérêt. Je l'ai vu venir et j'étais là, j'espère qu'ils vont juste la suggérer, tu vois, genre on va les voir répéter ensemble et se dire, bon bah probablement qu'après la fin de la série, ces personnages-là, ils seraient mis ensemble. Pas du tout, ils y vont full force, demande au mariage aux Oscars et tout, j'étais là, mais calmez-vous, ils se connaissent depuis 15 jours.
Enfin, non, mais les portes ouvertes, enfoncées.
De ouf. Donc ça, bon, voilà. Et en fait, j'ai trouvé que ce Jack Castello, c'était un peu une Piper d'Orange is the New Black, dans le sens où peut-être... En fait, je pense que Netflix aurait pu, des années après Orange is the New Black, et surtout avec Ryan Murphy, qui est quand même habitué à mettre beaucoup de diversité dans ses productions, peut-être qu'on aurait pu avoir Archie en héros, tu vois, ou Camille, et qu'on n'avait pas besoin d'un mec blanc complètement dans les canons de beauté, qui est hétéro et tout, qui est tellement hétéro qu'il recrute Archie pour s'occuper des clients gays de la station de service parce qu'il veut pas le faire. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce personnage ? Je suis pas sûre. Sachant que j'aime bien en fait la storyline de il faut que les gens qui ont le pouvoir, il faut que les gens qui sont privilégiés se mettent en danger pour ouvrir la porte à ceux qui sont moins privilégiés parce que eux ils risquent beaucoup moins, tu vois. Un Archie, il peut jamais faire son film s'il y a pas quelque C'est part clair. Un mec blanc avec du pouvoir qui lui ouvre la porte et qui lui dit OK, je te fais confiance. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais en soi Jack il fait pas vraiment ça puisque lui-même il a assez peu de pouvoir vu que lui aussi il débute dans le biz. Donc voilà, je suis pas sûre qu'on a besoin du héros de cette série en vrai. Après, on peut débattre de est-ce que c'est vraiment le héros ou pas, mais c'est quand même sur lui que ça s'ouvre, sur lui que ça finit et tout. Donc voilà, lui, il m'a pas passionnée. Après, la réécriture de l'histoire, je l'ai trouvée intéressante. J'avais un titre pour la critique sur Mademoiselle, mais que finalement, on n'a pas pris parce qu'il est un peu trop obscur. C'était Hollywood sur Netflix, le Inglourious Basterds des minorités au cinéma. Parce que du coup, c'est vraiment ça, quoi. C'est, on réécrit l'histoire. Et on écrit une histoire qu'on aurait aimé voir arriver, qui est... Parce que donc, spoiler, Inglourious Basterds, Quentin Tarantino, à la fin, on gagne contre les nazis et on tue Hitler. Et là, à la fin, des années, voire des décennies avant que le monde n'accepte de mettre de la diversité au cinéma, il y a quelques bonnes personnes, a few good men, qui ont pris le risque de mettre des minorités au cinéma et en plus... En fait, l'épisode final, il s'appelle une fin hollywoodienne parce que c'est clairement une happy end incroyable. Enfin,
non, mais c'est pas une happy end, c'est 15 happy end à la suite. J'ai passé des bouts tellement je me fais chier.
Alix, ton cœur est noir. Pourquoi ton cœur est-il si sombre ?
Mais en fait, c'est ça. En fait, je suis hyper déçue parce que moi, j'adore justement les réécritures de l'histoire. Par exemple, j'ai adoré Once Upon a Time in Hollywood, j'ai adoré Inglourious Basterds, les réécritures de Tarantino. J'adore les belles histoires. Je suis quelqu'un de positif. J'adore quand ça raconte des belles choses. Et en fait, là, j'ai trouvé ça... Toutes les portes ouvertes étaient enfoncées de fou, quoi. Et je sais pas, moi, du coup, je rentre pas dedans. Et en plus, j'ai trouvé ça un peu anachronique comme réécriture de l'histoire, parce que je trouve que c'est des problématiques qui sont propres à aujourd'hui, qui sont tout simplement transposées dans les années 40. Or, c'était pas les problématiques... Enfin, ça l'était, mais c'était pas les réflexions vraiment de l'époque, quoi. Et en fait, je sais pas, ça m'a...
Bah, c'est sûr que...
J'imagine que c'était pour vouloir faire une distanciation avec nous aujourd'hui, mais je sais pas, ça m'a paru tellement anachronique et tellement loin de ce qui pourrait arriver. En fait, s'il avait fait une uchronie d'aujourd'hui avec ça, mais franchement, pourquoi pas, tu vois.
Qu'est-ce que tu veux dire comme une uchronie d'aujourd'hui, c'est-à-dire un film, une série qui montrerait le paysage culturel de 2020 si jamais on s'était mis dans les années 40 à dire ok, tout le monde est bienvenu.
Ouais, tu vois, ou et même cette histoire, en fait, je pense qu'il n'y avait pas besoin de la placer dans les années 40 pour qu'elle soit cool. Et en fait, je sais pas, je trouve que il y a un truc d'anachronisme du coup qui fait que la réécriture de l'histoire, elle est bancale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je pense pas que je l'ai ressenti comme ça. Bon, déjà, il faut quand même le dire, c'est que Ryan Murphy, c'est pas le mec qui fait les productions les plus réalistes du monde. Il y a toujours un côté onirique, un côté complètement what the fuck, que ce soit dans Glee ou dans American Horror Story, côté cauchemar. Après, j'ai pas vu Pose, qui est, il me semble, sur la scène ballroom et Vogue des années 80, si je dis pas de conneries. Peut-être que c'est plus historiquement accurate. Mais il a toujours tendance à voilà en faire en fait voilà il fait pas du cinéma ni des séries réalistes
ouais non mais ça me dérange pas tu vois
et du coup je m'attendais pas à avoir un réalisme parce qu'en fait si tu fais Hollywood de façon réaliste bah y a pas de noir dans les films et y a pas de gay dans la rue et puis voilà et puis c'est juste l'histoire qu'on connaît tu vois et c'est pas ce qu'il voulait faire moi j'ai trouvé cet anachronisme assez rafraîchissant dans le sens où c'est des problématiques qui peuvent paraître évidente, c'est-à-dire que voir le combat d'un groupe de personnes pour mettre pour la première fois une femme afro-américaine à l'écran dans un rôle qui n'est pas stéréotypé, pour mettre un scénariste qui est ouvertement homosexuel et qui embrasse son compagnon sur le tapis des Oscars et tout, ça peut paraître un peu léger dans le sens où bah ok on l'a fait tu vois donc ça nous paraît plus aussi dingue, mais en fait on le fait quand même très très peu aujourd'hui. Et je trouve que cet anachronisme, il permet de nous rendre compte à quel point on est encore à la bourre, tu vois. Quand tu vois ça et que tu te dis, mais en fait, dans les années 40, ça fait scandale. Mais en vrai, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un mec embrasser son compagnon sur le tapis des Oscars, c'est quand la dernière fois que j'ai vu... Alors, il y en a des discours politiques aux Oscars et des discours d'inclusivité et tout, mais on est quand même dans un cinéma qui reste très blanc, très hétéro, très masculin, avec des personnages stéréotypés. Et moi, la storyline qui m'a le plus, c'est une sous-storyline, c'est celle de Anna May Wong, qui est donc une actrice chinoise qui est tombée dans une forme de déchéance parce qu'elle souffrait d'être stéréotypée dans toute sa carrière et de pas pouvoir dépasser ses rôles qu'on lui proposait toujours. Mm-hmm. Et en fait, donc, comme tout finit bien, évidemment, dans son second rôle dans Meg, puisque le film Peg devient Meg pour raconter l'histoire d'une jeune fille afro-américaine, elle gagne un Oscar et elle fait un discours où elle dit qu'elle pensait que ça arriverait jamais et que le fait de jouer une femme et non pas un cliché orientaliste, exotique... Ça a redonné un sens à sa vie. C'est là où j'ai eu les larmes aux yeux. Genre, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux dans le final. À ce moment-là, j'étais là. Et en plus, enfin, encore une fois, méga grosse ficelle, mais tu vois en parallèle une famille populaire d'origine chinoise qui écoute, qui écoute la retransmission des Oscars et qui est trop contente qu'elle ait gagné. Et en fait, ça peut paraître cucu, mais c'est un truc qui existe, tu vois. On est dans un monde où il y a une seule femme qui a gagné l'Oscar de la meilleure réalisatrice, du coup. Et il y en a. On est en 2020, il n'y en a eu qu'une, tu vois. Donc, en fait, je me dis, moi, donc je suis une jeune femme d'origine marocaine. Si un jour, il y a une femme d'origine marocaine qui est en lice pour un Oscar ou un César, je vais vraiment être collée à mon poste et écouter. Et si elle gagne, j'aurai cette même émotion de « Yes, parce qu'on a passé une frontière, tu vois, c'est trop bien. » Et du coup, je trouve ça intéressant de placer ça dans les années 40 pour renforcer encore le fait qu'on n'a pas fait ce chemin-là, on ne l'a pas vraiment fait, et qu'il y a encore du boulot à faire. Donc moi, ça ne m'a pas dérangée. Ouais. Après, je ne suis pas spécialement... Il y a des gens qui adorent les films à costume, comme on dit, qui adorent les films un peu, les périodes drama et tout. Moi, ce n'est pas spécialement ma passion. Il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres moins. J'aime bien la période années 40-50, États-Unis, les diners, les drive-in cinéma, machin. Aussi. Mais ce n'est pas un argument spécifique pour moi, quoi. Si la série n'est pas bien, même si elle se passe dans les années 40, je ne vais pas la regarder. Mais là, j'ai trouvé que ça donnait un vernis en plus un peu... Il y a un côté un peu factice à ce Los Angeles des années 40-50, t'as l'impression que c'est un décor de film pour
un
le
grand
coup,
décor, ouais, bah un studio.
Yes, et du coup, je trouvais que ça permettait de, en fait, ça élude plein de problématiques parce que même, tu vois, même les personnages pauvres comme Archie qui a pas beaucoup d'argent et tout, ils ont quand même une vie. Enfin, ils ont pas l'air de souffrir de la pauvreté. On sait qu'ils se prostituent par besoin, mais en soi, à part Jack qui se fait couper de l'électricité un soir, on voit très très peu les problématiques financières. La ville est toute propre, même les cinémas gays où les gens se pépoutent tranquille, c'est hyper clean et tout. Donc je trouve
mais
que
justement,
en gros,
tu vois. Ouais, vas-y.
J'ai l'impression que ça élude, enfin que ça nettoie plein de sujets pour se focaliser sur le sujet qui est la diversité au cinéma. Et du coup, les autres sujets, ils sont pas moins intéressants, mais juste c'est pas mon thème. Du coup, je vais pas en parler et on pourra en recoser quand on parlera de la violence sexuelle dans la série parce que c'est très intéressant. Mais clairement, Ryan Murphy, il s'intéresse pas avec cette série à l'état de l'Amérique des années 40-50. Il s'intéresse à quel point le cinéma peut changer le monde si on lui donne les moyens de le faire. Du coup, bon, je trouve qu'il reste dans sa promesse.
Mais en fait, moi, ce que j'ai trouvé limite déprimant, c'est que comme j'y croyais pas, comme c'était trop tout facile, tout... En fait, limite, ça m'a déprimée parce que je me suis dit, waouh, il faut ça pour réussir un jour à, enfin, tu vois, à avoir un minimum. En fait, là, c'était trop, tu vois. Ils ont tous gagné l'Oscar. Bon, du coup, sauf le blanc, sauf Jack Castello, c'est le seul à pas gagner l'Oscar. Et ça, c'est intéressant aussi sur ce que tu disais par rapport à Piper de Orange is the New Black. Mais ouais, en fait, du coup, j'ai trouvé ça limite presque déprimant. Enfin, moi, ça m'a un peu déprimée. Et je pense que, en fait, j'adore les formats de mini-séries. En règle générale, parce que c'est une histoire close et que du coup, c'est comme un long film que tu regardes sur plusieurs épisodes. Mais là, je trouve que en fait, ça aurait mérité vraiment une série sur plusieurs saisons avec des vrais obstacles à franchir et qu'à la fin, t'aies vraiment envie qu'ils gagnent tous. Parce que là, en fait, tu vois, ils m'avaient tellement agacé, certains, pour qui tout leur tombait tout chaud dans le bec, en vrai, que du coup, j'avais limite envie de donner une fin nulle, tu vois, de dire, bah, non, enfin, tu vois, non, tu vas pas l'avoir.
T'imagines, attends, genre, à la fin, personne gagne. La meuf, ouais. Camille, elle a pas le droit d'être au premier rang des Oscars et Archie se fait shooter en sortant du truc, quoi. Genre,
mais,
la vie, c'est de la merde.
Mais tu vois, et ça, justement, je trouve que ça donne... Enfin... Ça donne lieu à une deuxième saison où voilà, et en fait ça se passe sur plusieurs années. Là ils font un film, ils ont tous 20 piges et ils y arrivent de la première fois. Enfin je sais pas, j'ai pas réussi à y croire, mais après c'est mon truc perso et le fait que je l'attendais beaucoup aussi cette série quoi.
Après voilà. Je te rejoins sur le fait que ça manque clairement d'obstacles qui ont l'air un peu plus épais qu'une feuille de papier, tu vois, parce que au final moi comme je l'ai lu, les deux obstacles principaux c'est le fait que donc le chef de A Studios qui est à l'hôpital va un jour se réveiller et ne va pas valider ce film. Donc il y a un truc un peu de rush de putain, il faut qu'on le finisse et qu'on le sorte parce que le jour où le mari il se réveille, il va shut down très vite. Et le moment où le film est brûlé par ses avocats. Et en fait, ces deux problématiques sont résolues hyper vite, puisque le mec se réveille, il est vaguement fâché, il regarde le film, il est trop ému, il pleure, et il dit à sa femme, franchement, je veux bosser avec toi, je veux que tu sois une femme forte et libre, c'est trop bien ce que t'as fait. Et après, en plus,
ton salaire.
Voilà. Et du coup, il y a la fin d'épisode où les rushs du film sont brûlés par les méchants avocats. Et le lendemain, épisode suivant, ah, en fait, j'avais une copie dans mon coffre, je suis là, mais what the fuck, quoi? Ouais, en fait, non. C'est juste, pourquoi mettre des obstacles si c'est pour les résoudre aussi vite, surtout que c'est une série Netflix, donc on sait très bien que tout le monde va la binger. Tu peux pas te dire, ah ouais, les gens vont passer une semaine à se dire, nani nana, comment ils vont faire pour le film. Et en fait, j'aurais trouvé ça intéressant, limite, que peut-être ce film soit détruit, qu'il n'y ait pas de copie, mais que, du coup, bah, ça redonne un nouveau souffle à cette équipe pour faire quelque chose de différent, pour même peut-être changer le code Hays, enfin, tu vois, faire... Que cet obstacle serve à quelque chose au lieu à juste mettre un cliffhanger nul sur un épisode où tu sais très bien que Netflix va lancer l'épisode suivant tout de suite après et qu'en 7 minutes ce sera résolu quoi. Donc ça, je suis d'accord avec toi et je verrai pas forcément plusieurs saisons, mais en tout cas une saison plus longue parce que là il y a que 8 épisodes ou 7, je sais plus.
7
peut-être.
Ouais.
En fait, tu peux faire 10 ou 12 épisodes et du coup faire en sorte que ces obstacles ils soient un peu plus costauds et que ça prenne plus que 10 minutes pour les surmonter, tu vois. Ça aurait pu être intéressant. Après, je sais pas ce qui fait qu'il a choisi d'en faire 7, mais pour moi, le fait que ça finisse aussi bien... En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme les tragédies grecques où tu sais la fin dès le début, quoi. Ou les comédies grecques, du coup, pour l'inverse. C'est que le propos n'est pas est-ce qu'ils vont y arriver. Le propos, c'est imaginer à quoi ressemblerait le monde si ces gens-là y étaient arrivés. Et finalement, ce qui est dommage, c'est que la série s'interrompt au moment des Oscars. Donc tu vois pas, ça aurait peut-être valu un épisode de clôture où tu vois, genre, je sais pas, 2 ans après, comment le monde a changé.
Ils mettent un an plus tard.
Oui, mais c'est très court, quoi.
Mais surtout, ça se concentre encore une fois que sur ces personnages. Et justement, en fait, la série veut réécrire l'histoire. Et en fait, elle réécrit pas l'histoire en général, tu vois. Et... même toutes les retombées, ils disent qu'ils ont brisé tous les records. Enfin, ça aussi, c'est...
Ils disent que les racistes ont arrêté de manifester spontanément parce que le film est trop bien. Je vous mets les racistes, ils n'arrêtent pas spontanément.
Ouais, c'est
la qualité de l'œuvre n'est pas à leur préoccupation. Les gens qui ont détesté Black Panther parce que c'était des Noirs, ils ne se sont pas dit... Après, franchement, j'ai vu le film, il était bien. Non, j'avoue, c'était bien. J'arrête. Tu vois, ils ont juste continué à détester Black Panther, c'est la vie.
Ouais. Mais c'est là que c'est vraiment, en fait, on n'est même pas, en fait, c'est même pas pour moi une uchronie, c'est vraiment une utopie. On est dans un autre monde où les gens sont tous gentil avec un bon fond et le marketing n'existe pas apparemment et les gens s'en battent les couilles de la thune aussi, enfin venant des studios.
Bah, ils parlent quand même du fait qu'il faut que le film soit à petit budget parce qu'il risque de couler, que ça les handicape parce qu'il y a des cinémas qui veulent pas diffuser leurs autres films, qu'il va falloir faire un blockbuster pour compenser les... Donc il y a quand même des considérations d'argent. Après, du coup, on a Darren Criss qui fait construire un panneau Hollywood à 25 000 dollars au-dessus du budget, ce qui est un problème
pendant
environ
par la prostitution.
Un quart d'heure, parce que du coup, Ernie relance des prostituées retraitées dans le biz, et apparemment 25 000 dollars, et vraiment dans les années 40, 25 000 dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
Ouais, c'est beaucoup, beaucoup.
Ça se lève assez vite, quoi, parce que ça n'a pas interrompu la production plus longtemps que ça, donc je suis là, bon, ok. Enfin, c'est encore une fois... Je comprends qu'il faut qu'il y ait des obstacles et des... il faut que les héros surmontent des choses pour qu'on s'intéresse à eux. Mais en fait, ils ont déjà tellement à surmonter. Pourquoi leur mettre des faux obstacles qui servent à rien? Ils ont toute une société, ils ont un monde entier à surmonter. Donc en fait, peut-être on s'appesantit là-dessus au lieu de leur mettre des pirouettes de type « Oh non, les rushs ont brûlé. Oh non, le panneau Hollywood coûte trop cher. » Je suis là... Ok.
Ça. Ça s'attardait notamment plus sur le Ku Klux Klan, qui est une vraie menace à l'époque, tu vois. Et même à un moment, il y a la mafia aussi qui se mêle, qui était beaucoup intégrée dans le cinéma à l'époque. Et là, il y a un petit caméo de la mafia vite fait, quoi. Mais ça aurait pu être des vraies problématiques avec des vrais trucs de l'époque, en fait. Enfin, je sais pas. Voilà.
Oui, ou même le fait que Jack ait été arrêté par la police pour... prostitution et oui, il est arrêté pour prostitution, pas pour relations homosexuelles, mais pour prostitution et racolage. Et en fait, c'est une vague storyline de il faut vraiment pas que ça sorte dans les journaux. Mais pareil, c'est réglé en fait par un coup de baguette magique. C'est là où la mafia justement est impliquée. Et en fait, du coup, tu le sens jamais en danger. Tu te dis jamais ce film est en danger. Et c'est dommage parce que un film comme ça, par rapport à l'histoire que la série raconte, ça devrait être une bataille de tous les instants. Pour le faire sortir au cinéma, pour l'emmener aux Oscars, on devrait avoir... En fait, on devrait pas avoir tout le monde qui est nommé aux Oscars. On devrait avoir des pétitions pour que le film soit reconnu aux Oscars. Enfin, c'est ce qui arrive, en fait, encore maintenant, tu vois. Il y a plein de films qui méritent d'être aux Oscars et qui y sont pas parce qu'ils correspondent pas à ce que les Oscars attendent. Il y a plein de gens qui méritent de gagner des Oscars qui les gagnent pas parce qu'ils sont pas de la bonne couleur de peau ou du bon genre ou qu'ils ont pas la bonne personnalité. Et du coup... le fait que ce soit aussi facile, c'est vrai que ça casse un peu l'identification dans le sens où... En fait, ce que la série dit,
c'est... Ouais, c'est ça, en fait. Ça casse l'identification, c'est vraiment ça.
Ce que la série dit, c'est s'il y avait eu assez de gens courageux pour ouvrir la porte aux minorités, le monde aurait compris que les minorités ont du talent et qu'il n'y a pas de raison de les bannir du paysage culturel. Mais en vrai, ça a pris un peu plus longtemps, mais il y a eu des gens qui ont eu ce courage. On a fini par avoir des Afro-Américains en lead dans des films, on a fini par avoir des personnes gays qui pouvaient être gays au grand jour et tout. Et on sait que ça ne suffit pas, parce qu'en fait, ces films, ça continue à être des bagarres de tous les instants, tu vois. Et du coup, c'est un peu... réducteur de dire il aurait suffi d'un peu de courage parce que tous les jours encore en 2020 il y a des gens courageux qui se battent pour pouvoir raconter leur histoire au cinéma et en fait c'est pas ça suffit pas le courage parce que même si ton film est financé, même s'il sort, même s'il est bien, même si tout le monde dit qu'il est bien, tu vas peut-être te faire snober par les institutions et tu vas peut-être en fait devenir un acteur ou un réalisateur raté et pas faire de deuxième film et ça c'est une vraie réalité qui du coup n'est... Oui, je vois ce que tu veux dire du coup sur le truc de ça se passe tellement bien qu'on arrive, que ça, c'est plus... En fait, je pense que c'est une série qui est censée donner de l'espoir et donner de la motivation à changer les choses. Mais tout est tellement facile que tu te dis, ok, donc en fait, je peux pas m'imaginer faire ça, parce que si je faisais la moitié de ce qu'ils feraient... Enfin non, plutôt, si j'en faisais deux fois plus que ce qu'ils font tous, je serais quand même en galère, parce que la réalité, c'est que les gens qui essayent de faire du cinéma différemment, ils sont quand même en galère, donc... Mais
en fait, il aurait fallu que ça commence leur bataille. En fait, il aurait fallu que ça se passe sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, et que la fin, tu sois là, yes, enfin, tu vois, ils ont gagné. Yes, tu crois, parce que mine de rien, la société, c'est quand même un sacré obstacle. Enfin, les Oscars sont prêts à donner des Oscars à tout le monde, alors que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment pas le cas, parce que les Oscars, c'est qui? C'est la société, c'est le cinéma américain. C'est les producteurs, c'est tout le monde du cinéma américain. Et si vraiment tout le monde était prêt à ce point à filer des Oscars à tous ces gens, effectivement, oui, ce serait facile. Enfin bon, bref, Mais parlons de choses positives. C'était qui ton personnage préféré de la série ?
Je pense que mon personnage préféré, en tout cas celle que j'ai pris le plus de plaisir à regarder évoluer, c'est Avis, la femme de Ace, donc le chef de Ace Studio, qui commence en étant une cliente de Jack quand il est prostituée, qui explique qu'en gros, elle est mariée à son gars depuis très longtemps, qu'elle, elle a jamais pu percer à Hollywood parce qu'elle était juive et que du coup, c'était un problème. Et qui du coup a cette empathie envers ce que traversent les minorités au cinéma, puisque même si elle est hyper riche et qu'elle peut passer pour blanche et tout, bah elle a vécu la discrimination déjà en tant que femme et en plus en tant que femme juive. Du coup, ça lui donne cette empathie. Et donc, au moment où son mari est dans le coma, elle prend les rênes de Ace Studio et elle finit par produire ce film hyper courageux que personne n'aurait produit à part elle. Je pense que c'est mon personnage préféré déjà pour ses outfits, parce que ses outfits sont tous incroyables. J'ai envie de porter des turbans et des capes bicolores toute ma vie, c'est ouf. Bon. Et parce que je trouve que, pour le coup, c'est peut-être un des personnages les plus réalistes, dans le sens où elle sait ce qu'elle risque, elle sait à quel point c'est compliqué, parce qu'elle-même, elle a dû renoncer à son rêve à cause de la discrimination. La première fois que l'avocat lui dit « bah en fait, votre mari il vous a confié les rênes du studio en cas d'accident », elle en veut pas. Elle est là en mode « mais pas du tout, en fait, filez le studio à son bras droit et filez-moi l'intendance des sous », tu vois, genre comme d'habitude. Il a « bah non, c'est à vous de greenlight les films ». Et en fait, elle dépasse ce propre syndrome de l'imposteur qu'elle a pour faire des choses incroyables, tout en restant globalement pragmatique sur les risques qu'elle prend, sur le fait que ça va... À un moment, elle dit... juste avant que le film sorte, elle dit « Demain, nous serons soit les personnes les plus intelligentes d'Hollywood, soit nous ne travaillerons plus jamais. Du coup, trinquons à ne plus jamais travailler. » Et j'ai trouvé ça vraiment cool, cette attitude de « En fait, on a 99% de chances que ça se casse la gueule, mais c'est pas grave, on sera quand même fiers de l'avoir fait, tu vois. » Du coup, je pense que c'est elle, mon personnage préféré. Et après...
Ouais, effectivement, moi, je l'adore aussi. Et en plus, je trouve que c'est ultra intéressant dans cette série parce qu'il y a beaucoup de vieilles femmes qui sont représentées notamment des personnages enfin de vieilles femmes qui sont pas seulement des mères ou des grand-mères ou des voilà, c'est des femmes en elles-mêmes, avec Hélène aussi qu'on voit, Hélène Kincaid qui a des besoins, voilà, elle se cherche un petit gadjo
elle veut la papille,
et puis elles sont belles, ces femmes, elles sont puissantes et je trouve que c'est ultra intéressant dans cette série. Ça existe quand même peu aujourd'hui, tu vois, à part en vrai, t'as Grace and Frankie qui font des portraits aussi de femmes plus âgées. Mais là, franchement, t'as un vivier de femmes plus âgées qui est top, je trouve, dans cette série.
Yes. Bah, je pense que mon deuxième personnage préféré, c'est le duo Hélène Kincaid et Dick Samuels, qui sont donc respectivement la directrice de casting et le producteur de Ace Studio, qui j'adore les voir évoluer. Je trouve que c'est des très bons acteurs. Je trouve que dans leur rôle ils sont extrêmement justes et j'ai pris un vrai plaisir à voir en fait les discussions entre Hélène Kincaid et Avis quand Avis elle lui dit mais enfin tu vas pas t'encrouter, tu l'invites chez toi pour parler casting et puis tac tac tu tentes. J'avais l'impression de voir moi avec mes potes, tu vois, c'est trop bien. Et cette libre, et alors là j'ai aucune idée de à quel point cette parole aussi libre elle peut être réaliste pour l'époque. Je pense qu'elle aurait peut-être été plus privée parce que là elles sont quand même dans le restaurant d'entreprise, tu vois, mais après c'est Hollywood donc je ne sais pas, mais je trouve ça cool de montrer qu'en fait de tout temps les femmes ont eu des envies et des besoins sexuels, que ça s'arrête pas avec l'âge, que en plus à une époque où t'avais quand même des risques de devenir veuve plus jeune que maintenant, tu pouvais du coup passer des décennies à être quand même fonctionnelle et avec tes besoins mais sans un homme officiel. Et j'ai trouvé vraiment très très touchant justement quand elle tente le coup avec Dick et qu'il sait pas à quoi lui dire, et qu'elle se doute qu'il est homosexuel, mais elle veut pas le forcer à le dire, mais elle lui dit quand même que c'est pas grave. Enfin, je trouve que pour moi, c'est la plus belle romance du film, tu vois. C'est Hélène
c'est
et Dick qui, au final, sont...
Leur histoire d'amitié est trop, trop bien. Et moi, Dick Samuels, c'est mon personnage préféré aussi, parce que, pour le coup, je trouve qu'il est très complexe et beaucoup plus profond que les autres. Et j'arrive à comprendre ses motivations, en fait. C'est un mec qui a bossé toute sa vie à faire des merdes de studio et qui un jour dit j'en ai marre. En fait, ça se voit qu'il est fatigué. Et en même temps, il a cette quand il engueule le réal, parce que à cette époque, il faut savoir que les réalisateurs avaient très peu de pouvoir sur les films. En fait, les producteurs étaient complètement, géraient totalement le film de A à Z, et le réal, c'était vraiment le chef de tous, quoi. Genre, il dit machin, tu vas faire la lumière, mais il avait pas d'intention artistique comme ça peut être le cas aujourd'hui. D'ailleurs, les réals étaient employés du studio aussi. On en prenait un pour aller sur tel film. Enfin, ils choisissaient pas forcément leur film. Et du coup, quand il va le voir et qu'il lui dit « Tu me refais plus jamais ça », j'étais là « Bah, en fait, oui, tu vois, il a raison. » Oui.
Non, mais surtout, il lui a quand même dit 98 fois. Ils ont fait une réunion budget sur « Ok, on va avoir un putain d'arbre dans ce film et un seul parce qu'on n'a pas les sous pour deux arbres. » Et l'autre, deux jours après, il est là « 25K, vas-y, 25K, prends-les. » Je suis là « Mais c'est pas ton argent, en fait. C'est ton premier film, pourquoi tu fais ça ?»
Et surtout, ouais, c'est ça. Et genre, tout le monde se met vraiment en péril pour réaliser ce film. Et toi, tu veux juste un échafaudage plutôt qu'une échelle. Mais t'es qui,
frère? Bon, après, j'avoue, j'ai un peu ri quand le chef décorateur lui dit « Bah, peut-être qu'on pourrait dire qu'elle a une échelle de corde et qu'elle descend avec, et qu'il est là. » En fait, je t'explique, elle est montée se suicider, donc elle a pas une échelle de corde pour descendre. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Ouais. Mais ouais, Dick Samuels, il est vraiment très cool, et je suis contente, pour le coup, je trouve que lui, il la mérite sa happy end, tu vois, qui en plus est une happy end très douce amère, parce qu'il a quand même passé toute sa vie à se mentir et à mentir aux autres, et dans le placard, et à s'interdire même... les écarts que permet Ernie, par exemple. Enfin, on voit que quand il est aux soirées caliente, en fait, lui, il rentre chez lui à 22h parce qu'il sait très bien que sinon, il va être trop tenté. Et du coup, c'est un crève-cœur de voir cet homme qui mérite d'être aimé et tout, et qui s'y refuse. Donc certes, à la fin, il a quand même... Il arrive à aller dans un bar gay, il fait une rencontre, alors d'un homme qui a l'air d'avoir 25 ans de moins que lui, mais why not, tu vois. Et c'est amené très très vite, mais tu comprends qu'ils sont ensemble, le mec fait un discours à son enterrement, du coup il aura vécu peut-être genre 6 mois en dehors du placard avant de mourir, ce qui est du coup une happy end pas over the top et bien méritée, je trouve.
C'est ça. Et sinon, aussi, moi, j'ai beaucoup aimé les caméos, en fait, des personnages secondaires. Donc, notamment, on parlait de Anna May Wong et des gens qui ont vraiment existé à ce moment-là, parce que ça m'a permis de vraiment regarder la série avec Google à côté. Et notamment, j'adore la story de Hattie McDaniel.
Yes.
C'est ça. Donc, c'est en fait vraiment la première femme noire à avoir gagné un Oscar. Bon, c'était pour un rôle, pour un second rôle. Mais en fait, ils l'ont vraiment interdit de rentrer dans la salle. Et elle a gagné, elle est allée récupérer son prix, quoi. Et genre, c'est impensable. Et tu vois, je trouve que cette histoire, justement, elle est ultra forte. Enfin, je sais pas, je suis trop déçue que la série s'attarde pas plus sur des vraies histoires, parce qu'en fait, finalement, leur propos sert mieux la cause que la série essaie de défendre.
Oui, et puis il y a cet aspect transmission qui est hyper intéressant, et les discussions entre Hattie et Camille, bon, il y en a genre deux, mais quand elle la briefe avant les Oscars, justement, qu'elle lui dit, en fait, voilà comment ça va se passer, ça s'est passé comme ça pour moi, donc te laisse pas faire comme moi je me suis laissé faire, et va au premier rang et récupère ton Oscar et tout, ça c'est hyper intéressant, d'autant plus que c'est des personnes réelles, que moi je ne connaissais pas, car je ne suis pas cultivée, et peut-être qu'ils auraient pu pousser cet aspect, en fait typiquement Dick, qui du coup est un producteur hyper puissant à Hollywood, mais qui a vécu dans le placard toute sa vie, peut-être qu'il aurait pu avoir plus de discussions avec Archie, en lui disant en fait, je sais ce que c'est que d'être gay à Hollywood, et je dis pas que ça va être pareil pour toi, mais voici ce que tu peux craindre, tu vois, parce que Archie, il est un peu en mode, en fait, je sais, tu vois, je sais comment je vais être traité, parce que donc, il est gay, en plus, il est noir, du coup, il a vraiment ce côté, quand il a une croix du Ku Klux Klan devant chez lui, il est en mode, j'ai peur et je suis en colère, mais je suis pas surpris parce qu'en fait c'est ça toute ma vie, tu vois, ce qui est logique. Ouais. Mais il y aurait pu avoir ce truc de transmission de, en fait, toi gamin, tu vas peut-être avoir la chance que j'ai pas eu, mais du coup je vais essayer de te donner toutes les armes possibles pour évoluer et faire ta place dans ce monde parce que moi je le connais depuis des décennies et pas toi. Ce que Atif fait très bien avec Camille. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir un peu plus ça ou avoir plus de discussions entre Anna May Wong et Camille aussi, puisque c'est toutes les deux des actrices non blanches qui vont essayer de se faire leur place à Hollywood et tout. Donc je vois ce que tu veux dire, ouais, ça aurait pu être creusé.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais. Et du coup, bah, dernière question, un peu... Ouh là là !
Comment as-tu
trouvé... comment as-tu trouvé le traitement des violences sexuelles et psychologiques par la série ? Qu'est-ce que t'en
étrange.
As pensé ?
Très étrange. Mais en fait, c'est... je voulais pas... Donc j'ai regardé, je pense que le premier soir, j'ai regardé 3 épisodes. Et j'ai tout de suite été très intriguée. Donc, encore une fois, je savais pas du tout de quoi allait parler cette série. Donc, je savais pas qu'il allait avoir de la prostitution semi-forcée, tu vois. Donc, j'étais là, ah bon, d'accord. Et en fait, j'ai été très intriguée par la légèreté avec laquelle c'est traité. Donc, dans le premier épisode, on découvre le business d'Ernie et de sa station de pompiste prostituée. Et il y a aussi, dans le premier ou dans le deuxième, Roy Fitzgerald, du coup, qui rencontre Henry Wilson, lequel l'oblige à lui prodiguer une fellation. Enfin, à se faire prodiguer une fellation pour pouvoir travailler avec lui. J'étais déjà très perturbée par la différence de traitement, dans le sens où la scène avec Wilson, tu sens que c'est pas bien. Roy, il a pas envie de le faire. Ça ressemble plus à ce qu'on a pu voir avec Weinstein et tout, tu vois, les fameuses promotions canapé. En fait, c'est pas un bon moment à passer pour les deux. Il y a un vrai côté où il se sent sali, il se sent trahi. Donc ça, c'est tourné comme... C'est un moment dramatique. Après, on pourra discuter de est-ce que c'est assez dramatique, mais en tout cas, la réalisation te dit, là, c'est pas bien ce qui se passe. Alors que Jack, qui se prostitue parce qu'il a très peu le choix, avec Ernie qui lui laisse absolument pas la place pour discuter, et bah c'est tourné de façon plus rigolote, tu vois, quand il couche avec Avis, c'est finalement un bon moment, il est nerveux mais il le fait. Après, il y a un moment où t'as un genre de montage où il nique une go dans des escaliers et tout, machin, j'étais là... Ok, on est quand même très détente, et en fait ça m'a beaucoup surprise, parce que je pensais pas, et là ça, c'est un peu méta comme réflexion, c'est plus sociétal, mais franchement j'étais là, je ne vois pas comment Netflix a validé ça, parce que Netflix est dans une vibe extrêmement woke, extrêmement prudente sur les sujets de société, beaucoup de diversité, il y a énormément de contenu Netflix qui traite du contenu du sujet des violences sexuelles, qui en traite bien, ils ont sorti, c'était Unbelievable, une mini-série sur une femme victime de viol il y a pas longtemps, enfin... Ils sont on point là-dessus et je les trouve extrêmement prudents. Du coup, j'étais vraiment en mode, mais comment Ryan Murphy, il a fait valider des scènes de prostitution à Hollywood et des promotions canapés aussi légères ?
Moi, en mettant dans les années 40.
Ouais, mais même, parce qu'en soi, tu peux le tourner tu peux le tourner de façon grave même dans les années 40, tu vois.
Ah bah oui.
Moi, ma logique, c'est que déjà, c'est différent parce que c'est des mecs qui couchent avec des meufs. Jack, il couche avec des meufs, et que du coup, c'est beaucoup moins vu. La prostitution masculine est beaucoup moins vue comme négative et dangereuse, et la sexualité masculine est toujours vue comme quelque part valorisante pour l'homme, en tout cas quand elle est avec une femme. Du coup, même si Jack est prostitué, même s'il est soumis à des clientes beaucoup plus privilégiées que lui, il est quand même actif dans l'acte sexuel, et il le vit comme, bon, je suis pas ravie, principalement parce que je trompe ma femme. Bon, ok, et parce que c'est pas vraiment ça que je veux faire de ma vie. Mais bon, why not en tant que petit boulot, tu vois. Et je sais que c'est une réalité. Je sais qu'il y a plein de travailleurs et de travailleuses du sexe qui ne sont pas traumatisés par leur métier, et tant mieux, tu vois. Mais là, on n'est pas sur un personnage qu'il a choisi. On n'est pas sur un personnage qui est préparé, puisqu'il est à la station d'essence depuis genre 10 minutes avant d'être jeté dans les griffes de Avis. Et ça va qu'il tombe sur une meuf sympa qui lui fait pas faire des choses qu'il veut pas faire, tu vois. Mais j'ai été très perturbée. Et en fait, assez vite, du coup, j'ai googlé. Alors, j'avais un peu peur de me faire spoiler, mais j'étais là. Mais c'est sûr que ça doit faire un tollé. Enfin, comment est-ce que Netflix peut sortir une série qui met en scène de la prostitution et des violences sexuelles pour avancer dans le milieu du cinéma ? De façon pas très... où en fait, la série te tape pas dessus en te disant c'est pas bien et c'est grave, tu vois. Ce que Netflix a un peu tendance à faire, je trouve, avec le sujet des violences sexuelles. Et tant mieux, enfin, why not, tu vois. Il faut qu'il y ait aussi des contenus très, très pédagogiques, limite moralisateurs. Parce qu'en tant que société, on a toujours pas fait tout le chemin sur les violences sexuelles. Et je me suis dit, mais ils vont se faire... Enfin, il doit y avoir hashtag Netflix is cancelled, Ryan Murphy is cancelled, ça doit être la merde. Pas du tout. Zéro, rien du tout. J'étais là...
Mais c'est pour ça, moi j'étais tellement étonnée. En fait, j'étais étonnée et au début je me suis dit bon, vas-y, essaye, tu vois, enfin, essaye de mettre à l'époque. Enfin, je sais pas. Je me suis dit ça doit être moi qui a un problème, tu vois, parce que j'avais l'impression que ça ne choquait personne. Et notamment moi j'étais aussi étonnée de voir donc ces abus sexuels et la prostitution que sur des hommes, puisque en fait on sait que les femmes en subissent aussi gravement les conséquences. Alors c'était ultra intéressant, je trouvais, d'en parler pour les hommes, parce que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais du coup comme c'est ultra tabou niveau Weinstein, etc., j'ai l'impression qu'il s'est un peu réfugié là-dedans, et en excluant totalement les femmes qui, elles aussi étaient victimes de la promotion canapé. J'étais un peu étonnée.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, je comprends dans le sens où, si t'es Ryan Murphy et que tu décides de faire une production qui aborde le sujet de la prostitution et des violences sexuelles, mais de façon pas très creusée et un peu légère, en fait, tu peux pas rajouter dans cette série Camille, par exemple, qui se fait menacer par un producteur pour jouer dans le film, tu vois. Parce que, avec l'actualité de ces dernières années, dans la tête des gens, ça, c'est identifié tout de suite comme c'est grave, c'est pas bien. C'est grave, c'est pas bien. Il faut que ce producteur sorte de la série, il faut qu'il paye pour ses actes, il faut qu'elle soit traumatisée. Enfin, c'est grave et c'est pas bien. Donc, tu peux pas montrer ça et de l'autre côté montrer que pour un mec, c'est moins grave, tu vois. Et je pense que Ryan Murphy ne dit pas que les violences sexuelles sur les hommes sont moins graves.
Non,
pas
du
tout.
Pas.
Je pense juste que, en fait, oui, si tu veux raconter cette histoire-là, tu te focalises sur les hommes qui sont victimes ou participants, je sais pas trop, un peu des deux, coupables aussi de ces dynamiques, et c'est une autre histoire à raconter, en fait, si tu veux mettre, parce que oui, c'est, je pense que historiquement, la petite Camille, ou même la fille du producteur de A Studio, dont j'ai oublié le nom, la blonde, là, en fait, elle dit pas
Claire,
qu'elle...
non.
Claire, peut-être, ouais. Elle dit pas de qui est la fille. Elle est sous pseudonyme, et du coup, ses collègues ne savent pas quelle est la fille d'eux. Alors, probablement que les gens qui doivent savoir savent, mais du coup, rien ne la protège contre une potentielle violence sexuelle dans le milieu du cinéma. Mm-hmm. Et ça, si tu commences à raconter ça, c'est... En fait, tu peux pas...
C'est une autre série, mais en fait, du coup, ça... En fait, je sais pas, ça m'a...
En fait, le propos de la série, c'est Eleanor Roosevelt qui dit... C'est peut-être pas les gouvernements qui changeront le monde, mais le cinéma. Et ça, c'est déjà,
mais c'est
tu vois, audacieux. Personnellement, c'est un message qui me met un peu mal à l'aise, parce que je suis pas pour dépolitiser la politique. Et je trouve que c'est un peu facile de se dédouaner en disant « Moi qui suis littéralement la première dame des États-Unis, je pars du principe que contre la violence raciste dans le Sud... »
On peut
le
rien
gouvernement,
faire.
C'est bif-bof. Par contre, faites-moi un bon blockbuster, les gars, et là, ça va régler le souci. Tu vois, je suis là. En fait, meuf, c'est ton boulot, au bout d'un moment, d'aider à faire un gouvernement qui... Tu peux agir en tant que gouvernement, tu vois, mais ok. Et surtout, après, c'est pas la faute de Ryan Murphy, mais cette série, elle sort en plein confinement, en pleine pandémie mondiale, où t'as Trump qui raconte de la merde tous les jours à la télé sur le coronavirus. Donc, en fait, c'est pas parce qu'on fait la meilleure série du monde sur le coronavirus que... En fait, ce qui est important, c'est que le gouvernement, il protège les gens et qu'il leur file des masques, tu vois. Donc, si le gouvernement, il fait pas ça, tu peux faire une super série, les gens, ils vont mourir quand même. Et le racisme, c'est un peu pareil, tu vois. Bien sûr que le cinéma et la culture, ça fait partie de la société, ça fait changer les mentalités. Mais parfois, il faut des gouvernements courageux qui prennent les devants. Et en fait, on l'a eu en France avec l'abolition de la peine de mort ou le droit à l'avortement. La société, elle n'était pas pour. Et c'est pas un putain de film qui a fait changer ça. C'est une loi qui a dit on va arrêter de tuer des gens.
C'est clair.
On va arrêter d'empêcher les femmes d'avorter, tu vois. Petit rant politique. Voilà. Donc, le propos de la série, c'est ça. C'est que c'est le cinéma, c'est Hollywood qui va changer les mentalités, tu vois. Et du coup, il faut que tu croies à Hollywood. Il faut que tu croies au pouvoir bénéfique d'Hollywood. Et si tu présentes Hollywood comme un endroit pourri où tout le monde se fait violer, c'est pas possible. Du coup, t'es obligé de limiter la réalité des violences sexuelles, parce que sinon, tu peux pas, en tant que spectatrice, être en empathie avec une industrie si t'as l'impression qu'elle broie des gens. Là, dans cette utopie, Hollywood, c'est une machine à rêves qui rend les rêves réalité grâce au courage de quelques belles personnes.
Mais justement, en fait, je trouve que... En fait, moi, j'ai du mal à digérer justement que la série, elle glamourise Hollywood, alors que les protagonistes veulent faire un film qui dénonce cette glamourisation et qui montre tout le mal que la starification peut faire à quelqu'un, en fait. Au départ, Peg, elle doit sauter du haut du panneau. Et après, elle saute plus. C'est quand même un film sur... Mais après,
ils ont
c'est intéressant
mis une happy
cette.
Dans la happy end, quoi. Je trouve ça intéressant, oui.
C'est intéressant parce que leur réflexion est intéressante. Ils sont là. Maintenant qu'elle est noire, en fait, si elle saute, qu'est-ce que ça dit aux petites filles noires ?
Oui, ça veut dire vous y arriverez jamais. Je suis d'accord avec ça. Mais
en fait, c'est plus le même film.
Mais même votre film fictif dans le film, il peut pas mal finir. Du coup, voilà, ça m'a fait rire. Mais effectivement, c'est très pertinent. Et tant mieux qu'ils aient eu Enfin, ça aurait été bizarre que notamment Archie et tout n'aient pas le réflexe de se dire « Ah, peut-être ouais. que maintenant... » En fait, tu peux pas juste changer la couleur de peau d'un personnage et raconter ouais. la même histoire. C'est très différent. Et du coup, c'est cool qu'ils aient changé.
Ouais, mais bon, du coup, c'est quand même un film contre la glamourisation de Hollywood et enfin, sur ce que ça peut briser comme personne. Et même cette série. Et en fait, je sais pas, tout est glamourisé dans la série quand même. Enfin, je trouve que c'est hyper... j'ai un oxymore dans la tête, mais c'est antinomique.
Paradoxal, ouais.
Ouais, paradoxal. En fait, du coup, je savais pas où me foutre. Est-ce que cette série, elle vante les mérites d'Hollywood qui peut changer les choses? Ou alors est-ce qu'elle dénonce les personnes comme Henry Wilson, qui sont des personnes brisées par le système et par la société, en fait, et qui pourrissent l'industrie de l'intérieur? Enfin, c'est... Je sais pas. Bah, d'ailleurs, le personnage d'Henry Wilson, j'ai trouvé son traitement ultra étrange parce que c'est quelqu'un qui a existé, en fait. Et c'est quelqu'un qui avait apparemment ses agissements. Et c'est ce genre de personnes qui font que l'industrie du cinéma a été très... Enfin, a été pourrie, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas. En fait, et j'ai trouvé son traitement dans la série ultra grotesque. Tu vois ce que je veux dire? Il était un peu tourné en ridicule, même à la fin, quand il est écarté de tout le monde, parce que bah, il est producteur, mais tout le monde s'en fout un peu de lui, quoi. Personne lui doit le respect. Et ben, en fait, c'était parce qu'il... ça le rend un peu bouffon, mais jamais on lui dit « tu vas aller en prison ». Bon, après, il y a la dernière discussion entre Rock Hudson et lui, où Rock Hudson lui dit « j'ai encore des cauchemars de toi ». Et là, on comprend vraiment le traumatisme et il a vraiment les larmes aux yeux. Enfin, moi, j'adore Jim Parsons en tant qu'acteur. D'ailleurs, il joue très bien son rôle. Mais, mais c'est jusqu'à cette dernière scène, là, on comprend que ça a bouleversé des gens. Mais sinon, jusque-là, je trouve que c'était un peu un bouffon.
Personne le respecte, tout le monde lui parle mal. Il peut avoir l'ascendant que sur des jeunes acteurs qui... Enfin, que sur des gens moins privilégiés que lui. Et en même temps... Du coup, ils lui ont fait une histoire de rédemption qui le force quand même à admettre ses fautes, puisque, alors tout ça, ça se passe off-screen, mais il dit qu'il a été à des rendez-vous, enfin à des genres de...
Oui, de trucs, aux alcooliques anonymes.
Voilà, aux alcooliques anonymes, mais aussi, il dit, et c'est pas juste pour l'alcool, c'est aussi pour réfléchir à d'autres trucs que j'ai fait. Donc on est toujours sur un non-dit, on va jamais... Il n'y a pas une seule fois le mot viol dans cette série, il n'y a pas une seule fois le mot
abus. Ah non, mais je crois qu'il dit... Non, il dit qu'il est allé à des réunions pour accepter qui il est en tant qu'homosexuel, je crois.
Oui, c'est ça. Mais pour moi, ça sous-entend... Enfin, en gros, il dit sans le dire que ça l'a forcément aussi fait réfléchir à... Enfin, s'il demande pardon à Rock, c'est pas parce qu'il l'a forcé à se faire refaire les dents, quoi. Je pense que c'est pour un peu plus que ça. Et en fait, moi, j'ai trouvé ce personnage intéressant parce que... Donc, je suis pas au courant, j'ai pas encore beaucoup creusé sa vraie histoire. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de parler du fait que... Être dans une société qui te violente et qui te rabaisse à cause de qui tu es, ça fait pas forcément de toi une victime parfaite et un ange sacrifié, ça peut faire de toi le pire connard, parce que tu intègres cette violence, et tu vis en permanence avec la haine de toi qui finit par devenir la haine des autres, et du coup Dick Samuels et Henry Wilson, c'est un peu les deux facettes d'une même pièce, tu vois, c'est deux mecs d'à peu près le même âge, même si Henry Wilson il est un poil plus jeune, qui ont vécu les mêmes souffrances et qui ont eu une réaction différente. Dick Samuel, c'est de se retrancher, de se couper totalement de cette partie-là de sa vie et de sa personne. Henry Wilson, c'est de le vivre de façon dégueulasse et violente, mais parce que personne lui a dit qu'il pouvait le vivre différemment. Et en fait, la haine qu'il a envers les jeunes mecs qui croient en eux, c'est qu'ils ont un courage et un espoir que lui n'a plus, qui est de pouvoir être qui ils sont un jour, tu vois, dans la société. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant de... Alors, c'est peut-être trop... C'est probablement trop brièvement... amener et explorer, et bah comme tu le disais dans l'intro, il y a beaucoup de personnages dans cette série, donc en cet épisode tu peux pas creuser un sujet aussi complexe que comment l'homophobie finit par être intériorisée et changer ta façon d'agir en tant que personne. J'ai pas été choquée par le fait qu'il ait une histoire de rédemption, parce que pour moi c'est
moi ça non plus, tu vois, mais en fait c'est son traitement ultra grotesque. Enfin, que personne le prenne au sérieux, tu vois. C'est quand même un mec ultra influent. En fait, il est dangereux parce qu'il est puissant. Et que, en fait, il a, dans la vraie vie, ce mec-là, personne lui parle mal, en fait. Et personne... Enfin, il est... C'est quelqu'un qui est prêt à tout, qui est prêt à se lier avec la mafia pour changer les destins des gens.
C'est un journaliste qui faisait juste son travail, quand même. Hein.
C'est ça. Enfin... C'est, je sais pas, et du coup j'ai trouvé son traitement ultra léger, mais comme l'est en fait le traitement de la prostitution, des abus sexuels, etc. dans le reste de cette série. Donc je savais pas trop quoi en penser.
En fait, je pense qu'à partir du moment où tu décides, donc apparemment, Hollywood est librement basé sur les mémoires d'un mec qui a vraiment existé et qui parle de cette station essence qui était un lieu de prostitution. Donc ça, cette histoire-là, elle est vraie. Et c'est un mec qui a fréquenté tout le gratin du Hollywood des années 40 et qui a fini par écrire des mémoires où il dit « Lui, il aimait bien sucer des bites, elle, c'était jamais la dernière pour les gangbangs. »
La délation, putain.
De tous les gens qui maintenant sont décédés, donc il a attendu qu'ils soient décédés, il était là « Ok. » Ok, papy a des souvenirs, let's go. Donc bon, pourquoi pas, tu vois. Et je pense que c'est bien de lever le vernis glamour et de montrer qu'en fait, les gens à cette époque, c'était des gens comme maintenant et que c'est leur image publique n'était pas à la réalité. Mais du coup, si tu décides de faire une série qui se base sur ce postulat-là, qui se base sur l'histoire vraie que raconte ce mec et que tu la romances pour en faire une happy end de ouf, tu ne peux pas... En fait, je vois pas comment Ryan Murphy peut faire cette série et prendre au sérieux, enfin traiter de façon grave... le sujet des violences sexuelles. Parce que du coup, Ernie, c'est un connard. Jack, il est trauma. Archie, c'est un mec noir gay qui est embarqué dans un réseau de prostitution dans l'espoir de peut-être pouvoir produire son film. Enfin, c'est horrible. C'est une histoire qui est hyper triste. Tu vois, tous ces mecs sont obligés de vivre le travail du sexe forcé pour avoir une chance, une minuscule chance de réaliser leur rêve dans une société qui, selon... toute prévision ne va pas les laisser faire. Et au final, ça finit bien parce qu'elle les laisse faire. Mais je pense pas que Ryan Murphy aurait pu traiter les violences sexuelles de façon aussi grave qu'elle le mérite, parce que du coup, ça change son histoire. Et en fait, moi, j'étais contente quand Hélène Kincaid et Ernie ils tombent amoureux, tu vois, j'étais là « Ouh, elle le mérite et tout !» Mais en vrai, Ernie, c'est... à la fois, c'est un connard, parce qu'il exploite des jeunes hommes, tu vois, et en même temps, bah, lui-même, il était ces jeunes hommes, et c'est la façon qu'il a trouvé de rester à Hollywood et de faire un petit peu partie du rêve, donc tout ça est très complexe, mais la complexité n'a pas le temps d'être explorée, en fait, donc ça fait un peu genre,
c'est ça.
Ce bon vieux Ernie qui veut que j'aille sucer des bites, il est fou, je vais juste aller... Attends, non mais, quand même, si, ça m'a choqué. Jack, c'est quand même, à la base, notre personnage principal. Il faut qu'on l'aime bien, il faut qu'on ait envie qu'il devienne acteur alors qu'il a le charisme d'une huître, il faut qu'on ait envie que ça finisse bien avec sa femme qu'il aime pas et qui est enceinte de jumeaux et lui, il a pas d'argent. Et vraiment, il se déguise en flic, il va dans un cinéma gay, à l'époque où l'homosexualité est illégale, il pointe un flingue sur le seul Renoir du cinéma gay, donc le mec il cumule... Et il lui fait croire qu'il va l'emmener au poste. Et je suis là, mais en fait, ça aussi, je suis surprise que Netflix ait validé. Parce que les violences policières aux États-Unis contre les personnes afro-américaines, c'est un sujet qui est quand même très tendu depuis longtemps. Et du coup, avoir un héros qui joue du fait qu'il est blanc et qui peut passer pour un flic pour aller terroriser un jeune afro-américain gay, pour le forcer à se prostituer à sa place pour un mec blanc, je suis là, mais... Waouh! Il y a tellement de choses dans cette scène qui ne vont pas. Et du coup, je suis là. Et ça, je pense pas que c'est une vraie histoire, puisque Archie n'a pas vraiment existé, et Jack Castello non plus, tu vois. Donc, je suis un peu en mode. Est-ce qu'il y avait pas une autre façon de recruter Archie qui n'aurait. En fait, tu peux mettre Jack Castello qui va dans le cinéma gay, pas en flic, et qui se fait juste pour recruter, et qui se fait draguer par Archie, et qui est là. Alors, vraiment, merci de ne pas toucher mon zob. Par contre, est-ce que tu voudrais te faire un peu de thune? Et c'est déjà mille fois moins pire, tu vois. Donc, j'étais là. Ah, très gênée. Et là, pour le coup, cette scène, autant des trucs comme Henry Wilson, je me dis, bon, c'est juste que c'est pas assez exploré, mais c'est pas. Ça me choque pas. Enfin, je suis pas en mode, il faudrait enlever ça de l'histoire, tu vois, surtout qu'il a existé. Mais cette scène-là dans le cinéma, je suis là, n'hésitez pas à l'enlever, peut-être, ou à la traiter différemment, parce que Archie, il devient quand même très vite pote avec lui, quoi.
C'est ça, et en fait, je me demande dans quelle mesure la série est pas réalisée pour que, en fait, ça nous choque que ce soit aussi léger. Tu vois ce que je veux dire ou pas que,
Ah, genre, c'est méta.
Bah, peut-être c'est méta, tu vois, dans le sens où on dit, bah, en fait, c'est comme ça qu'est le monde et qu'est le cinéma, enfin, qu'est le monde du cinéma. Voilà comment c'était traité à l'époque et même encore aujourd'hui, jusqu'à il y a 5 ans en fait, c'était en gros c'était banalisé, c'était une sorte de normalité des violences psychologiques et sexuelles dans le monde du cinéma. Donc à quel point la série c'est méta comme ça pour je sais pas.
Le truc,
mais alors personne ne l'aurait compris à part nous, Mimi.
Je pense que Ryan Murphy espérait qu'on ait cette discussion ensemble, Alex Martino. Là il est là, il écoute sort le popcorn, il fait yeah. Yeah, Alex Martino, thank you, you got it.
Je lui ai envoyé une lettre avec ce podcast en lien.
Dear Ryan. Non, je pense que ton hypothèse est pas mauvaise, mais en fait, ça marche pas parce que cette série, elle parle pas des violences sexuelles à Hollywood.
Ouais, c'est
ça. Et du coup, elle parle du manque de diversité et d'inclusivité à Hollywood. Et en fait, il n'y a pas de... À part... un tout petit peu Henry Wilson, mais qui est plus traité sous l'angle de « il a fini par accepter son homosexualité » que sous l'angle de « il a fini par arrêter de violer des mecs ». Il n'y a aucune fin pour ces histoires de violences sexuelles. Il n'y a aucune. En fait, là, ils disent que la station-service va fermer parce que, en fait, comme l'homosexualité devient plus acceptée, les mecs n'ont pas besoin d'aller se cacher. Je suis assez très cool, mais en fait, ça n'a jamais arrêté la prostitution. Les gens ne vont pas voir des prostituées obligatoirement parce que leur sexualité n'est pas acceptée. Ils vont voir des prostituées, parfois, pour avoir du pouvoir sur des gens qui sont moins privilégiés qu'eux et leur faire faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire avec leurs partenaires réguliers ou qu'ils n'ont pas envie de faire au grand jour. Et en fait, ça, c'est une réalité. Donc, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de prostitution du tout, puisque maintenant, c'est bon. En France, par exemple, les orientations sexuelles sont acceptées. Et surtout, il ne devrait pas y avoir de prostitution hétéro si le problème, c'était juste l'homosexualité, c'est illégal, tu vois. Genre, non, il y a toujours eu de la prostitution hétéro, alors que l'hétérosexualité a globalement toujours été légale. Je ne pense pas qu'il y a une société où c'était illégal. Du coup, c'est pas ce que la série veut raconter. En fait, peut-être que c'est un manque de courage. En fait, mais la série utilise ça comme un outil scénaristique, en fait. C'est le lieu où les gens se rencontrent. C'est là où Jack rencontre Avis. Il rencontre Ernie qui va finir par bosser dans le film. Il amène Archie et tout. Ouais. Mais c'est tout, quoi.
Mais en fait, c'est ça, c'est l'inclusivité en dépit de tout ça aussi, quoi. C'est, comme tu dis, en fait, c'est pas le sujet. Et du coup, ça fait un traitement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, quoi.
Après, je sais qu'il y a, une fille sur le forum de Mademoiselle qui a commenté la critique de Kalindi. Elle dit « Je ne dirais pas que les relations malsaines sont minimisées, juste qu'elles ne sont pas maximisées, qu'on n'insiste pas dessus en disant « Oh là là, regardez comme c'est horrible ». Personnellement, j'ai apprécié cela. Premièrement, parce que comme le dit Kalindi, ça montre à quel point c'est la norme dans cet univers. Deuxièmement, parce que j'aime bien les séries féministes et LGBT, mais j'aime encore plus les séries féministes et LGBT qui ne font pas la morale. Pas besoin d'insister dessus, ces scènes à elles seules suffisent à susciter le malaise et c'est très chouette ». Et ça, pour le coup, c'est un point de vue qui se tient, je trouve. Ouais. Et c'est ce qui fait que moi, personnellement, j'accroche pas trop au contenu Netflix, genre 13 Reasons Why ou Unbelievable ou quoi, qui sont très... Et je dis pas ça de façon négative, mais très donneurs de leçons, tu vois. Très genre, regardez, c'est grave, c'est pas bien. Moi, dans mon métier, je suis déjà confrontée toute la journée à des histoires graves et pas bien qui sont pas prises au sérieux. Donc, j'ai pas spécialement envie le week-end de me taper un docu sur le viol, tu vois.
Ouais, je comprends.
Mais
ouais.
C'est très bien que ça
existe. C'est de la pédagogie, tu vois.
Et en fait, Hollywood n'a aucune visée pédagogique à part... cette proposition, en fait, voilà, cette proposition de dimension parallèle de « et si il avait suffi de quelques personnes courageuses pour changer la société via un film ?» PS, on sait très bien que c'est pas possible, mais est-ce que ça fait pas du bien de passer cet épisode à y croire ? Peut-être qu'un peu, tu vois, moi ça, j'ai quand même passé un bon moment, même si j'ai du mal à mettre le doigt sur ce que la série raconte politiquement, sociétalement, tu vois. Parce que, encore une fois, les gens ont fini par avoir ce courage-là, et le Ku Klux Klan existe toujours en 2020, donc c'est un peu plus compliqué que juste faire des bons films avec des noirs et des gays, quoi.
Non, mais je suis hyper d'accord avec ce que dit cette mademoiselle. C'est, je trouve, un très bon commentaire. Et c'est un peu ce qu'on dit, hein, c'est un peu méta, hein, c'est un peu... montrer
tout
la banalisation. Tout est très méta. Et du coup, Mimi, si tu pouvais recommander Hollywood, à qui tu la recommanderais en particulier ?
Je pense que je la recommanderais aux gens qui ont bien aimé La La Land, qui ont vraiment beaucoup aimé La La Land. Parce que
moi, j'ai adoré La La Land.
Mais désolée, Alix, tu es une anomalie, t'aurais dû aimer cette série. non, parce que je trouve qu'il y a cette vibe. Alors effectivement, Hollywood n'est pas une comédie musicale, mais à tout moment, on sent qu'ils sont prêts à sortir des parapluies et à danser, quoi. T'es là en mode... Vous allez le faire ou pas?
Mais quel monde! Non, mais tu sais que je l'ai attendu tout le premier épisode. Genre, vraiment, j'étais là. Allez, chantez la chanson.
Je le recommanderais aussi aux gens qui aiment bien cette période parce que, quand bien même c'est plus une utopie qu'une uchronie, il y a quand même des personnes qui ont vraiment existé, donc avec une histoire romancée. Mais moi, en tout cas, qui connaissais pas du tout cette période, j'ai quand même appris des trucs sur comment fonctionnent les studios. Alors, je prends des pincettes et du recul parce que je sais bien que c'est pas la vraie vie, tu vois. Mais même ce que tu m'as expliqué là sur en fait, le réal c'était un exécutant, il avait pas de pouvoir et tout, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, j'ai appris des choses. Et je pense que. Si on aime bien ce que fait Ryan Murphy en général, il y a des chances, et je sais que ce n'est pas ton cas et j'en suis désolée, mais je pense que si on aime bien Pose, si on aime bien Glee, si on aime bien ce genre de choses, il y a des chances qu'on accroche à Hollywood. Et encore une fois, ça reste 7 épisodes bien produits, bien joués, c'est très très beau, les costumes sont incroyables, j'ai envie d'avoir toutes leurs tenues, même la tenue de pompiste, je suis là, mais c'est des pompistes, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi...
Mais faites une chanson en pompiste là.
Montez sur les voitures, avec... faites le car wash sexy là, avec les éponges. Donc, si vous aimez voir des belles choses, en tout cas, c'est très beau et tout le monde est incroyablement BG dans cette série. Alors, on a parlé du fait qu'il y a des femmes âgées qui sont représentées, qui font leur âge, et c'est très très cool. Mais on va pas se mentir, je pense que 75% du cast, c'est des jeunes gens indécemment beaux qui sont quand même genre. Pff, t'as deux ou trois scènes de cul, t'as Camille à un moment qui est en sous-vêtements avec des gens de la lingerie et tout. J'étais là.
Waouh!
Oh damn! Il est chaud un peu!
De ouf!
Donc voilà, si vous aimez bien ce que fait Ryan Murphy, que vous aimez bien La La Land et que vous êtes prêt à suspendre votre crédulité pendant cet épisode, let's go, c'est quand même sympa à regarder. Quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Non mais oui, t'as raison, si vous voulez voir du joli, il faut vraiment y aller, je pense, sans scepticisme aucun, quoi.
Faut mettre son cynisme à la porte, hein. Faut pas commencer à dire, faut pas trop penser à Weinstein et tout, tu vois, faut y aller en mode... Ouais. Et en soi, je trouve quand même ça cool parce que, mais ça c'est un truc qui est très classique dans l'histoire de notamment la science-fiction, c'est qu'il y a beaucoup, en fait c'est rare de voir des uchronies positives. Généralement quand on fait des uchronies ou des trucs futuristes, bah ça se passe mal parce que c'est le message c'est que l'humanité est nulle à chier et que voici une allégorie de nos problématiques actuelles via du racisme entre aliens, tu vois. Un des rares contre-exemples c'est Star Trek qui est très positif par exemple. Mais les uchronies qu'on a ces temps-ci, il y a The Plot Against America sur la montée du fascisme en Amérique dans les années 40. Il y a The Man in the High Castle sur des nazis littéralement aux États-Unis, tu vois. Donc c'est rare qu'on ait des uchronies positives qui imaginent et si l'histoire avait avancé dans le bon sens un peu plus vite. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est intéressant à regarder.
Mais en fait, c'est ça, c'est que je pense que, en fait, moi, le truc où j'y ai pas cru, c'est que j'ai l'habitude, comme tu dis, de voir des uchronies tellement négatives qu'en fait, j'ai été choquée de moi-même. J'ai été choquée d'être choquée. De pas croire aux gens qui sont gentils. Tu vois ce que je veux dire?
Genre, j'étais là, pendant cet épisode, ok, il est où le piège? Genre, qui c'est qui va les trahir? Qui c'est qui va. Tu vois,
Et en fait, tout le monde pardonne, tout le monde est décent, tout le monde est sain d'esprit, et genre, t'es là, quoi? Mais c'est. Et en fait, comme tu dis, en fait, c'est tout simplement une uchronie qui se passe bien, et c'est tellement étrange. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans ce mood-là, pour regarder cette série.
Tout à fait. Bon, c'était cool. Ah,
merci
je suis
beaucoup
d'avoir
Mimi.
Fait un long sort le popcorn sur Hollywood. C'était trop cool.
Ouais, on a bien parlé, c'était trop bien.
Yes.
Je suis trop contente.
Merci Alix Martino.
Merci Mimi.
Des bisous au popcornos, c'est comme ça que tu dis?
Ouais, je sais pas. Écoute,
bisous les popcornos.
Bisous les popcornos. Et n'oubliez pas, bien sûr, de parler de ce podcast à tous vos amis, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis... de nous faire des petits commentaires, voilà. Dites-nous
tout
si vous avez kiffé.
Bah, notamment, du coup, c'est le premier épisode long qu'on fait depuis le début du confinement. C'est le premier épisode, donc on avait changé de formule où on faisait des épisodes plutôt snacking, des conseils de séries ou de films assez courts. Là, on retente un épisode long avec du débat, avec une qualité de son qui est un peu différente. Mais du coup, ce serait vraiment cool d'avoir vos commentaires sur est-ce que vous avez tout écouté, est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous voulez qu'on en fasse plus des épisodes comme ça, parce que c'est toujours bien de savoir ce qui vous plaît. Voilà.
Voilà. Et venez nous dire ce que vous avez pensé d'Hollywood vous-même dans les commentaires, dans les DM Insta, tout ça.
Yes.
Et je vous fais des gros bisous les popcornos. À la prochaine.
Gros bisous. Bye bye.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.